Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors, Rav Lemel, on poursuit notre étude de la Torah comme chaque semaine. On n'arrête pas, même si on vient de lire un très beau texte. On a une nouvelle paracha qui s'appelle Vaera. Et il y a un passouk, un moment dans ce texte qui dit Moshe, que les Bnei Israël n'écoutent pas Moshe. C'est-à-dire que Moïse vient les voir, parle de leur libération, et ils n'arrivent pas à écouter, ou en tout cas, je ne sais pas si on va dire ils n'arrivent pas, c'est vous qui allez nous expliquer, ils n'écoutent pas en raison de l'excès de travail, de souffrance, de fatigue. Le texte dit comme ça, dit ils souffraient trop pour écouter, quoi, en gros. Et c'est vrai que ça nous parle beaucoup, parce qu'on est dans une période où on a vécu deux années qui n'étaient pas drôles, pour nous peut-être moins que pour nos frères en Israël. Mais qu'est-ce que ces quelques mots de la Torah vous inspirent, Rav Lemel ?
Exact, on est dans un moment dans lequel justement Hachem, Dieu, va s'adresser à Moshe, et va dire, bon, mais maintenant tu vas dire aux enfants d'Israël que ça y est, ils vont sortir, d'accord ? Et ce qui est impressionnant, c'est que véritablement, c'est là d'ailleurs où vous savez, vous avez tous les termes de la délivrance qui émergent. Et vous savez que ce sont ces termes, ces quatre termes de la délivrance qui nous renvoient à l'idée de ces quatre coupes de vin du soir de Pessah. Donc, je vais les sortir, je les sauverai, je les libérerai, je les prendrai comme peuple, etc., etc. Je les amènerai vers la terre. Enfin, extraordinaire. Et Vaïdaber Mosheken. Moshe dit exactement ça aux enfants d'Israël. Velo Shamuel Moshe. Ils n'écoutent pas Moshe. Mikot ser ruach ou me avodakasha de par leur respiration haletante, littéralement, ou me avodakasha de par leur travail extrêmement difficile. Alors, évidemment, pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas Moshe? Pourquoi ils n'arrivent pas à l'écouter? C'est très intéressant parce que si vous ouvrez un petit peu les commentateurs, entre autres Rav Shimshon Raphaël Hirsch, eh bien, c'est vrai qu'ils souffrent tellement que ce qu'on leur annonce, c'est irréel, quoi. Il leur aurait dit, écoutez, il y aura un peu moins d'heures de travail, il y aura un peu plus de repos. Bon, alors ça, on peut l'entendre. Mais être capable d'imaginer un futur qui est radicalement autre, qui est inimaginable, ça, c'était très compliqué. Alors, c'est intéressant parce que c'est déjà le premier point sur lequel je voulais réfléchir avec vous, c'est-à-dire que au fond, on n'est pas prêt à imaginer l'inimaginable dans le bien. Et d'ailleurs, vous constaterez que très souvent, malheureusement, on imagine plein de choses, mais pas dans le bon sens. Là, on est prêt à imaginer, oh là là, vous rendez compte, et s'il va y avoir ça, alors il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Parce qu'il y a une forme de logique, et puis parce que c'est un petit peu, malheureusement, la nature profonde de l'être, de d'abord penser les choses qui risquent de ne pas aller, et de manière plus vaste, d'ailleurs, le Roche, Rabbeinu Asher, qui est un des très, très grands maîtres du Moyen-Âge, dit que Darkam chez la briotte, que la nature profonde des créatures, c'est le galot et taraot, ou le halim et tatovot, de révéler ce qui ne va pas et de mettre de côté ce qui va. C'est une forme d'état d'esprit, malheureusement, qui est très souvent présente, et à partir de cela, évidemment, eh bien, on n'arrive pas à se projeter, et il y a donc ici un vrai travail à faire. Ce travail, justement, c'est d'être capable d'imaginer l'inimaginable dans le bien, d'être capable, d'ailleurs, vous savez qu'à propos du retour sur la terre d'Israël avec le Mashiach, eh bien, Beshuv Hashem et Shivation Hayinu Kecholmim, dit le verset dans les psaumes, lorsque Dieu fera revenir véritablement le peuple d'Israël à Sion, Hayinu Kecholmim, nous sommes comme dans un rêve, c'est-à-dire quelque chose, non, mais c'est pas possible, quoi, c'est inimaginable, et pourtant, c'est bien cette réalité-là. Alors, c'est peut-être ici le premier enseignement sur lequel la Torah nous demande ici de réfléchir à travers cette lecture du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est-à-dire de bien comprendre que, eh bien oui, il fallait être capable à ce moment-là, et on ne leur en fait absolument pas le reproche, d'ailleurs la Torah ne leur fait pas du tout le reproche, mais la Torah nous dit bien « velo sham » où ils ne peuvent pas entendre, parce que tout simplement, il y a ici quelque chose d'inimaginable, C'est pas possible que le futur se conjugue au plus que parfait d'une manière tellement incroyable à tous les niveaux, puisque je vous rappelle que non seulement Hachem dit à Moshe d'annoncer la délivrance, mais d'annoncer aussi le châtiment des Égyptiens, d'amener le peuple d'Israël sur sa terre. Enfin voilà, c'est vraiment le rêve. Eh bien, le rêve va devenir réalité. Et c'est là où, en effet, on a ce premier enseignement. C'est que on a difficile. Ça veut dire que c'est pas simple. C'est pas simple, là, actuellement, dans nos situations aussi, au niveau du peuple juif, d'imaginer que les choses peuvent être complètement différentes, qu'elles peuvent se transformer, qu'elles peuvent changer. Et c'est cette force d'imaginer qui fait émerger les choses. Faut pas oublier que la pensée joue un rôle non négligeable dans l'émergence des réalités concrètes de l'existence. Et la Torah ici est en train de nous le souligner. Et puis la seconde chose, ce qui est très intéressant, c'est que la Torah nous précise à travers ces termes Mikotser Ruach Ume Avodakasha. Kotser Ruach, c'est quoi? C'est cette respiration haletante, Avodakasha, ce travail difficile. Au fond, cette respiration haletante, c'est quoi? C'est l'incapacité de reprendre son souffle. Alors, évidemment, ils n'étaient pas tous en train d'avoir fini un 100 mètres haies ou un 110 mètres haies en train de. Comme ça, de respirer de manière haletante, c'est quoi l'idée? C'est qu'il n'avait même pas le temps. Quand quelqu'un court et qu'il est en train d'haleter, il est tellement centré sur la nécessité de reprendre son souffle qu'il ne peut absolument pas s'intéresser à autre chose. Vous savez, quand on a couru très très vite, eh bien, à un moment, on est centré sur « il faut reprendre son souffle, il faut reprendre son souffle, on est en train d'haleter ». Et tout ce qui est autour de nous, eh bien, on ne le remarque pas, on ne peut pas le voir parce que on a tellement besoin de reprendre ce souffle dont on sait qu'il est fondamental pour continuer à vivre. Il y a ici une réflexion beaucoup plus vaste à avoir. C'est en effet imaginer un futur qui correspond à ce que l'on doit être, c'est-à-dire un futur dans lequel le peuple d'Israël s'arrache à l'esclavage. Et l'esclavage, c'est aussi l'esclavage de la pression sociale, c'est l'esclavage des écrans, c'est l'esclavage des pulsions, enfin de toutes ces choses-là, eh bien, pour s'arracher à cela, il faut à un moment ne pas être dans un rythme de vie dans lequel on n'arrive pas à l'envisager. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut être en train, entre guillemets, d'haleter parce qu'on est totalement centré sur certaines choses et on n'arrive pas à imaginer le reste. Vous savez, vous avez des personnes, quand vous leur proposez des moments d'études, quand vous leur proposez d'imaginer que peut-être le Shabbat peut faire partie de leur vie, eh bien, ils n'arrivent même pas à l'imaginer tellement ils sont centrés sur du ici et maintenant, tellement ils sont centrés sur la nécessité de gagner encore et encore. Il y a une forme de jugement de ma part, non, clairement, parce qu'on ne peut jamais juger les gens tant qu'on n'est pas à leur place. Mais la Torah nous montre que, eh bien, s'arracher à une histoire qui nous enferme pour s'ouvrir à quelque chose qui est porteur de sens, demande d'arrêter d'être dans cette démarche haletante, d'être dans ce avodakasha, dans ce travail qui nous enferme et qui, au bout d'un moment, nous empêche d'imaginer. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le roi Salomon va nous le dire de manière très claire. Shlomo Ameler va nous dire « La kol zman va et tachat hashamayim ». Pour toute chose, il y a zman, il y a un moment, va et un temps, Tachat Hashamayim, sous les cieux. C'est intéressant parce que le roi Salomon, après, reprend tous les événements qui peuvent traverser la vie d'une personne, comme s'il était en train de nous dire « Attention, chaque événement, chaque chose a son moment. Et l'intoi, il y a un moment où il faut planter, mais il y a un moment dans lequel il faut récolter. Il y a un moment pour rêver, il y a un moment pour agir. Il y a, voilà. Et ça, peut-être que c'est l'autre leçon qu'on peut prendre, c'est-à-dire de réussir à un moment à se déconnecter. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Moshe va faire? Eh bien, on sait que Moshe va réussir à obtenir du pharaon que justement, ce qui symbolise cette capacité de s'arrêter un moment, d'arrêter halter, pour envisager, pour poser un autre regard sur notre vie, eh bien, c'est le Shabbat. Moshe va obtenir du pharaon, nous le savons, que le Shabbat soit présent pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Alors, bien sûr, il va utiliser l'argument suivant que le pharaon peut entendre. Il va lui dire, mais si tu les fais travailler de manière constante, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Donc, si tu veux préserver tes ouvriers, donne-leur un peu de repos. Mais au fond, il ne s'agit pas ici d'un repos physique que Moshe désire. Moshe désire, en effet, permettre au peuple d'Israël d'avoir ce temps d'arrêt pour pouvoir envisager un autre futur et faire en telle sorte que celui-ci puisse s'inscrire dans une réalité. Et c'est en effet ce qui va se passer. C'est en effet cela qui va permettre la libération du clan d'Israël et la sortie d'Égypte.
Il y a d'ailleurs en français l'expression on ne peut pas respirer, sous l'oppression par exemple. On dit j'arrive pas à respirer, c'est vrai, c'est vrai.
Oui.
Et je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé sur la place des otages à Tel Aviv 3 jours avant Simchat Torah. 3, 4 jours, je ne me souviens pas. Et la personne qui était. Et alors, à ce moment-là, c'est désespérant, parce que c'est la nuit, il n'y a personne. Et nous, on pense que. Ben, on ne peut pas imaginer quand sera la sortie des otages, quoi. Donc, on pense qu'on est en pleine nuit. Et concrètement, il n'y a personne sur la place. Juste une personne qui joue du piano. On s'en va, on est oppressé, mais ça fait 2 ans qu'on a appris à vivre avec ça. Et la personne qui est avec moi me dit, on reviendra à Simchat Torah pour accueillir les otages. Et ça m'a, je lui dis, mais écoute, je veux bien qu'on soit croyant, mais ça m'a énervé. Je lui dis, c'est pas la peine pour ça qu'il faut me raconter des salades. Ok, on croit, mais me dire qu'on va revenir dans 2 jours pour la libération des otages, 2 jours après, on était pour la libération des otages. 2 jours après, elle avait raison. Elle avait raison de croire comme ça. Vous vous rendez compte? C'est exactement l'histoire que vous venez de raconter, et pas, enfin l'histoire, le cours que vous venez de nous donner. Et par ailleurs, pendant toute cette guerre, vous allez voir que beaucoup d'entre nous ne vont retenir que les ratés et les mauvais moments. Personne ne se souviendra qu'on nous avait dit qu'attaquer l'Iran, c'est la fin d'Israël. Et parce qu'on n'arrive pas à respirer.
Exact, exact. On voit bien que l'idée, c'est comment réussir à transposer ce que la Torah nous donne et nous enseigne dans notre réalité, et à partir de cela, si on le met en place dans notre réalité, dans notre quotidien, les choses peuvent sacrément changer, c'est ce qu'on se souhaite très fort en tout cas.
Rav Lemel, on se souhaite une belle semaine, avec plein de bonnes choses, plein de moments d'écoute. Demain c'est dimanche, c'est le moment d'écouter ceux qui sont autour de nous et ceux qu'on aime, et de leur donner des choses, puisque justement on ne va pas au travail. Et merci pour ces belles choses que vous nous avez enseignées ce soir. Bonsoir à vous Rav Lemel, Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, shalom, Shavua Tov.
Et Shavua Tov, Shavua Tov. Vous voulez intervenir sur ce qui est vraiment une composante de, allez, pas seulement de notre paracha Vayera, mais de toute la sortie d'Égypte. C'est le cœur endurci de Pharaon. Vraiment un motif de réflexion pour des générations et des générations de Chachamim. C'est vraiment parce que c'est central. Et Pharaon a le cœur endurci. Il les laisse partir dès qu'il voit que il peut de nouveau se venger, il repart. Il a le cœur endurci, il lâche pas avec quelque chose qui fait que finalement il n'est peut-être pas très libre non plus de ses propres sentiments. Et donc c'est vraiment une constance et un pilier fort de notre paracha. Alors qu'est-ce que vous amène comme réflexion cette attitude de Paro, de Pharaon?
C'est vrai qu'au point de départ, quand on lit le texte, on se heurte à un pharaon qui prend des coups et dont on se demande pourquoi il ne lâche pas. Alors, dans le registre de la psychologie humaine, on peut comprendre que les gens s'endurcissent dans un chemin en espérant finalement arriver à leur fin. Les chroniqueurs pourraient dire que finalement, Pharaon avait quelques manœuvres secrètes et puis finalement qu'il espérait prendre des coups et puis qu'à un moment donné, il pourrait relever la tête. Ça, c'est ce que une lecture superficielle du texte peut nous laisser penser. Maintenant, quand on va vers le chapitre 6, au verset 12, on voit apparaître un verset qui est très intéressant. Moshe parle devant Hachem en ces termes. On va d'abord Moshe, l'ifné Hachem, les morts, entre ces termes. Il dit, les béné Israël ne vont pas me croire. Quand veux-tu que Paro me croie? Et Hachem dit à Moshe, à Aaron, et il leur demande d'ordonner aux béné Israël et à Pharaon, Melech Misraïm, de laisser sortir les béné Israël, donc de Misraïm de l'Égypte. D'accord ? En fait, dès le départ, quand Hachem s'adresse à Moshe et à Aaron, il leur dit, vous allez aller voir Pharaon, et vous allez lui dire, vous allez lui ordonner de vous laisser sortir. Un petit peu plus loin, au chapitre 7, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu et dit « Regarde, je t'ai mis juge sur Pharaon et ton frère Aaron, il sera ton prophète. D'accord ? Toi, tu vas parler, tu diras ce que je t'ai dit. Et moi, c'est marqué dans verset 3, je vais endurcir le cœur de Pharaon. » Dès le départ, en vérité, chapitre 7, verset 3, c'est clair, Hachem s'adresse à Moshe et dit « Sache que c'est moi qui vais endurcir le cœur de Pharaon. C'est moi qui vais l'endurcir son cœur. » Donc en fait, Pharaon n'a pas endurci son cœur, si vous voulez, intuitu, personné, en lui-même. Non, non, pas du tout. Son cœur, il était endurci par Hachem. Alors, il y a deux processus ici, en fait. Il y a un processus où, en fait, Pharaon lui-même, parce que ça ne s'est pas posé sur un désert, cette histoire-là, Pharaon est quelqu'un qui ne veut pas laisser sortir ses esclaves. Donc, il va lui s'endurcir. Mais sur ce cœur endurci vient se poser ce verset-là, qui vient nous cette information. Hachem va continuer, en quelque sorte, d'endurcir son cœur. Et on a une réponse et un enseignement. En fait, si Hachem a endurci le cœur de Pharaon, c'est parce qu'à un moment donné, il avait le choix. À un moment donné, il avait un libre arbitre. Il aurait pu accepter de laisser partir les Bnei Israël. Il aurait pu accepter les prodiges faits par Moshe Rabbeinu comme preuve du fait que Moshe Rabbeinu était un prophète et qu'il y avait là un ordre divin qui échappait qui lui échappait complètement. Mais Pharaon va refuser. Et donc, à partir du moment où il refuse, il part, cette fois-ci, complètement dans la direction qu'il s'est imposée à lui-même. Hachem le met dans cette direction. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Dans Parashat Toldot, il y a un Midrash qui dit que l'homme a 6 membres. Et 3 qu'il contrôle, 3 qu'il ne contrôle pas. Les pieds, la bouche et les mains, il les contrôle, parce qu'un homme va là où il a envie d'aller. Il dit ce qu'il a envie de dire, il fait ce qu'il veut avec ses mains. Par contre, les yeux, les oreilles et le nez, il ne les contrôle pas. Parfois, on sent des choses qu'on ne voudrait pas sentir, on voit des choses qu'on ne voudrait pas voir, et on entend des choses qu'on ne voudrait surtout pas entendre. Et lorsqu'un homme devient tzaddik, nous dit le Midrash, en fait, cet homme-là, il ne contrôle plus rien. Et comme preuve, David Amelech, qui lui, avec ses pieds, donc voulait aller au palais du roi et ses pieds l'emmener au Beth Amidrash, ou Avraham Avinu, qui avec ses oreilles n'entendait plus de mauvaises paroles à la fin de sa vie, ou avec la bouche, Yitzhak, qui aurait voulu maudire Yaakov quand il a su qu'il avait pris les brachot par la ruse, mais qui finalement l'a béni parce qu'il était complètement entre les mains d'Hachem. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce Midrash? Il nous est dit que finalement, l'individu, tout au long de son existence, abolit des libertés. Si je nous propose à tous collectivement aujourd'hui d'aller manger un bon jambon beurre à Kippour, la disquette ne rentre même pas, ça ne démarre pas. On s'est en quelque sorte enlevé ce discernement-là. Mais si je nous propose à tous de jeûner parce qu'on aura laissé de côté quelques heures d'études de la Torah l'année dernière, bon, on sera plus dubitatif et certes perplexe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a peut-être pas ce niveau. En fait, dans notre vie, on se forge un certain nombre de certitudes par choix successifs et on rentre dans un chemin. Bah, ça, c'est pour le positif, mais pour le négatif, c'est la même chose. Un individu peut s'enfoncer, on le voit bien dans les addictions, au point finalement de devenir lui-même l'expression de son addiction. Et donc finalement, ce que Hachem va faire, c'est simplement enregistrer finalement le fait que cet homme-là est rentré dans un chemin. Là où l'homme a envie d'aller, ben Hachem l'emmène. Hachem l'emmène, mais c'est en fait l'homme qui s'y emmène. Donc en fait, Pharaon, Hachem endurcit son cœur, parce que lui, au départ, il est rentré dans un chemin dont il n'a pas voulu sortir, et dont à la fin, il ne pouvait plus sortir. Et c'est un petit peu la même chose pour chacun d'entre nous. En fait, que ce soit dans les choix spirituels positifs ou dans des choix négatifs, nous choisissons par série de choix tout simplement une série de comportements qui vont s'ancrer en nous et dont nous allons devenir l'expression. Et effectivement, il y a un certain nombre de choix qu'on va faire qui sont des choix très positifs, qui vont s'ancrer en nous et qui vont passer, à tel point d'ailleurs qu'ils vont passer même dans notre descendance. Et puis il y a des points négatifs dans lesquels on peut s'ancrer et ne plus pouvoir en sortir, entre guillemets. Et donc finalement, pour en sortir, il faut que ce soit un véritable miracle. Alors quel est le miracle? Eh bien le miracle, c'est tout simplement qu'à un moment donné, Hachem peut sauver un individu qui décide de faire teshuva. C'est le miracle de la teshuva. Mais il n'est pas arrivé à Pharaon, parce que Pharaon était un destructeur et c'était un dictateur. Il fallait qu'il aille jusqu'au terme de son mauvais choix. C'est ce qu'on voit dans cette paracha. Et c'est une adresse qui nous est envoyée, finalement. Sachons faire les bons choix dès le départ. Voilà.
Ah oui, parce que c'est très dur après, une fois qu'on est Et on est même poussé. Hein, après. D'ailleurs, c'est ce que vous venez de décrire à l'instant, c'est être la jalousie, la colère, l'orgueil, être sûr d'avoir raison. Après, on est poussé. Ramadan Khabiton, merci. Et Shavuot Tov.
Shavuot Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Rav Gué, bonsoir et Shavuot Tov.
Bonsoir, Shavuot Tov.
Alors Rav Gué, arrêtons-nous avec vous un instant sur la personnalité de Moshe. Donc, d'où il vient, quels sont ses traits de caractère dominants qui font que c'est lui. C'est lui qui a été choisi pour libérer le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de la personnalité, des origines et du parcours de Moshe, de Moïse?
Alors, Moshe Rabbeinu, d'abord, la Torah ne parle pas de ses qualités intellectuelles. On ne dit pas que c'est l'homme le plus intelligent qu'il y a jamais eu sur Terre. Jamais, vous trouverez ça dans la Torah. Vous trouverez des qualités, d'abord, de leader, de la façon suivante. On le présente dans la paracha de Shemot comme étant quelqu'un qui intervient lorsqu'il voit une injustice. Il voit un Égyptien frapper un Juif, il intervient. Deux Juifs qui s'opposent, il intervient. Les filles de Yitro malmenées par les bergers, là, il intervient encore. Ça veut dire que c'est un justicier et un homme prêt à prendre des risques pour aller sauver. Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, Vaïetzel Echav, il a grandi, ce n'est pas simplement une question de taille, c'est qu'il est devenu grand. Parce qu'il est sorti vers ses frères et qu'il s'est senti concerné par tout ce qui arrive à ses frères. Donc, c'est vrai d'une façon générale, il est véritablement l'homme que Hachem a trouvé parce que, comme le dit le verset, « Vayar Hachem qui sar lirot », Hachem a vu qu'il s'était détourné pour voir. On parle du buisson ardent dans la paracha de Shemot. C'est se détourner pour voir la souffrance du peuple juif. Ce n'est pas simplement pour voir le buisson qui était en train de brûler sans être consumé. C'est qu'il s'est détourné pour voir et observer combien le peuple juif était souffrant. Et Dieu lui dit, eh ben, nous sommes les mêmes, entre guillemets. Hein, puisque moi aussi, je suis dans un buisson parce que je souffre de voir mon peuple, je souffre entre guillemets, de voir mon peuple souffrir. Et donc, il y a une sorte d'empathie naturel chez Moshe, naturel ou pas, en tout cas, il a travaillé sur lui pour être dans une empathie totale pour ses frères, et il est prêt à prendre des risques. Autre chose, il n'est pas venu de nulle part, Moshe. Il vient de deux femmes, Yocheved et Myriam, qui toutes les deux ont montré une capacité de tenir tête à Pharaon, le roi le plus puissant de l'époque, et lui dire non lorsqu'il... Alors, ils ne lui disent pas non, mais ils font comprendre que, je pense que Pharaon a compris, que leurs arguments de ne pas tuer les enfants juifs lorsqu'elles sont des sages-femmes et qu'elles procèdent à l'aide de l'accouchement, leurs excuses ne tiennent pas la route. Et donc, il comprend bien qu'elles tournent en ridicule. Et pourtant, il ne leur fait rien parce qu'elles ont Yirat Elohim, la crainte d'Elohim. Elles sont tellement imprégnées de crainte de Dieu qu'elles n'ont pas peur des hommes. Avoir peur de Dieu, eh bien, chasse la peur des hommes, et c'est la qualité de la mère et de la sœur de Moshe, et c'est pour cela qu'ils ont Moshe. Fayas lahem batim, il aura fait des maisons, Rachedi bate kehuna, bate levia, bate malchut, c'est-à-dire qu'il y a une récompense liée à cette capacité de résister face au rouleau compresseur de l'ennemi, qui est ici Pharaon, de l'ambiance égyptienne en général, et cette capacité de résistance est également une des qualités de Moshe. Évidemment, je ne veux pas cacher et passer sous silence la qualité principale de Moshe qui est la anava, l'humilité qui est aussi, comme le dit Rashi, la capacité de la patience, supporter le peuple juif. Le peuple juif n'est pas un peuple facile, il est très très compliqué à gérer, mais Moshe Rabbeinu a la patience. Et dès qu'il d'ailleurs il perd patience, dès qu'il se met en colère, tout de suite il est sanctionné d'une façon très très sévère par Akadosh Baruch Hu qui exige de nos leaders une patience infinie, une compréhension infinie. Toutes ces qualités-là, mises bout à bout, donnent un homme qui a finalement travaillé ses midotes, ses traits de caractère d'une façon incroyable, qui a cette relation privilégiée avec Hachem d'abord pour cette raison-là, mais évidemment qui va être l'homme qui va avoir la connaissance la plus profonde et l'analyse la plus juste du monde, puisqu'il va être en contact direct avec Hachem. Pendant 40 jours, trois fois, à trois reprises, il sera chez Hachem. Et tout ça, c'est la récompense d'un énorme travail sur lui-même. J'ajouterai aussi une grande confiance en Dieu, puisque lorsqu'il se rend chez Pharaon, on comprend bien que Pharaon le menace. Il est même d'ailleurs protégé par des lions, par des bêtes sauvages extrêmement, on va dire, redoutables. Et Moshe n'a pas peur de venir voir Pharaon, de le défier, alors qu'en un instant, il pourrait l'écraser. Donc c'est aussi une confiance en Dieu et aussi cette extraordinaire refus de 7 jours pendant lesquels il résiste à Hachem en disant « je n'irai pas ». Pour une seule raison, c'est parce qu'il ne veut pas froisser, blesser son frère Aaron, qui est son aîné, qui aurait a priori priorité dans la direction du peuple juif. Et c'est parce que peut-être Moshe a cette qualité de ne pas oublier l'intérêt de l'individu, même s'il est chargé de sauver le klal, l'ensemble du peuple juif. C'est aussi une des grandes qualités du dirigeant d'Israël, de ne pas dire « bon, moi je m'occupe du peuple juif, les individus, ils iront chez quelqu'un d'autre ». Non, tu t'occupes de chacun et de tout le monde. Et peut-être le fait d'avoir refusé au départ, pendant 7 jours, montre bien la qualité de cet homme qui finalement n'oublie pas l'individu au bénéfice des grandes actions qu'il va faire pour le peuple juif. Encore une qualité que Moshe a, vous savez qu'il y a eu un roi qui a cherché à voir la photo de Moshe. À l'époque, on ne faisait pas de photos, on faisait des tableaux. Quelqu'un lui a fait un tableau, il était physionomiste, il a dit « cet homme a énormément de mauvaises midotes, de traits de caractère très négatifs ». Et on lui a répondu « effectivement, c'était de sa nature, mais il s'est tellement travaillé qu'il s'est totalement transformé et il est devenu le Moshe qu'on connaît ». Donc tout cela mis bout à bout fait de lui un être qui est tout resté dans l'histoire unique. Il n'y a personne qui n'est arrivé à son niveau ni n'y arrivera un jour. Peut-être le Mashiach le dépassera, mais sinon il reste notre référent. Mais d'abord et avant tout parce qu'il a cette confiance en Dieu, parce qu'il y a cette détermination, parce qu'effectivement il a des origines très particulières qui lui donnent des forces incroyables. Et il y a aussi, effectivement, ces magnifiques midotes, dont la première est l'humilité, dans toute sa richesse, dans toutes ses facettes. Et donc, on a devant nous un Moshe qui va sauver les Juifs, d'abord parce qu'il va leur montrer un exemple de vie, un être exemplaire, et qui va tout simplement inspirer toutes les générations par la suite. Et grâce à lui, nous avons reçu la Torah, parce que c'est seulement à lui qu'Hachem est prêt à donner la Torah.
Eh bien, Rav Guay, on va essayer de s'inspirer effectivement de cette personnalité, de ce que vous venez de nous dire, modestie, détermination, confiance en Dieu. On a un beau programme là pour la semaine qui s'ouvre. Je vous remercie et je vous souhaite Shavua Tov.
Shavua Tov.
Juste avant de conclure, Rav Shmuel Levin de Deauville est venu nous voir dans les studios. Bonsoir Rav Levin.
Bonsoir.
Soirée de gala, donc on l'a dit à l'antenne déjà, c'est le 17 janvier. À Levallois, après Shabbat,
exact.
Pour les 17 ans du Beth Chabad de Deauville, ouais. Je ne me trompe pas.
17 ans à Deauville.
Et l'ouverture d'un lieu d'études.
Voilà, on ouvre un nouveau Beth Amidrash à Deauville, pour tout le monde, pour les Deauvillais, mais pour tous les Parisiens qui viennent. Un lieu d'études dans l'endroit le plus beau et le plus calme du monde.
Donc l'idéal pour l'étude.
Exactement.
Allez, idéal pour chacun et pour l'étude, merci à vous. Et évidemment, j'appelle tout le monde à venir nombreux à ce gala le 17 janvier à Levallois.
Shem lo yivne bayit, shalom leivoy naboy, yim Hashem lo yishmorich, shav shokat shoymai. Yim Hashem lo yivne bayit, shalom leivoy naboy, yim Hashem lo yishmorich, shav shokat shoymai.